Je voulais te demander, là, tu évoques, quand je reviens un petit peu sur l'histoire, je crois que tu disais que c'était en 1844 que l'Empire accorde les mêmes droits à tous les sujets, c'est ça?
La
Donc je suis
réforme
un diplomate.
hydrographique, la grande.
Donc concrètement, ça veut dire que enfin, tous les mêmes droits, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence du tout d'impôt, par exemple, en fonction de
Il n'y a
son.
plus de différence d'impôt, tous les postes sont ouverts à tout le monde, les postes dans l'administration, la haute fonction publique. C'est le processus de réforme qu'on appelle les Tanzimat, c'est-à-dire la réformation de l'Empire ottoman, qui commence en 1844. Il y a plusieurs édits de réforme successifs, mais cette grande tentative de modernisation de l'Empire, bon, qui ne va pas aboutir, puisqu'au bout du compte, l'Empire va malgré tout s'effondrer.
Oui, vas-y
Oui.
Florence. Tu n'arrives pas à activer ton micro, c'est ça? Si?
Ici, bonsoir.
C'est bon. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur. Désolée, je suis arrivée extrêmement en retard. Donc j'espère que vous acceptez mes excuses. Je vais sans doute vous poser une question hors sujet en plus. Il se trouve que fin octobre, je suis allée au Karabakh. Suite à l'attaque du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan avec le support de la Turquie. Alors, on s'éloigne un peu des Balkans, mais on est quand même au cœur du Caucase. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur finalement les ressorts qui, au-delà, alors, géopolitique, là-dessus, c'est évident. Mais selon vous, sachant qu'il y avait un paquet de djihadistes qui étaient embauchés par les Azéris à la solde de la Turquie, en fait, j'aurais souhaité avoir un avis, une vue, une réaction d'un homme, qui a du recul et la connaissance que vous avez.
Alors écoutez, bon, effectivement, c'est le Caucase, ce n'est pas les Balkans, même s'il y a des ressemblances structurelles dans les sociétés et des ressemblances historiques dans les parcours historiques entre le Caucase et les Balkans. Le point de ressemblance le majeur, c'est cette confusion entre appartenance nationale et appartenance confessionnelle. On ne peut pas être arménien si on n'est pas fidèle de l'Église. Précalcédonienne, arménienne. C'est pas possible. Je veux dire, après, on y croyait ou pas, ça c'est une autre question, mais il y a cette confusion ou cette assimilation entre appartenance confessionnelle et appartenance nationale qui est un point commun entre les Balkans et le Caucase. Ensuite, moi, j'ai pas été au Karabakh depuis très longtemps. La dernière fois, c'était à la fin des années 90, je suis retourné un petit peu après en Arménie, en Azerbaïdjan. On est quand même sur un conflit qui a 30 ans. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 1 million de personnes qui ont été chassées du Karabakh et du corridor de la Chine et qui étaient réfugiées dans des conditions terribles en Azerbaïdjan. Donc les violences, sur 30 ans, elles ont eu lieu des deux côtés, il ne faut quand même jamais l'oublier.
Bien sûr.
Hein, je crois que la guerre qui s'est produite là à l'automne a été horrible, extrêmement dure. Il y a 30 ans de violence. Moi, j'ai des souvenirs dans les années 97. À l'époque, vous savez, les Serbes faisaient vraiment figure de grands méchants nationalistes. J'étais allé en bus de Yerevan jusqu'à Stepanakert, dans un bus un peu archaïque fourni par la République du Karabakh. À côté, les Serbes ressemblaient vraiment à des non-violents macrobiotiques, hein, à côté des combattants arméniens des années 90. Vraiment, hein, peace and love. C'était 2 ans après Srebrenica. Donc voilà, il y a quand même une histoire qu'il faut reprendre sur la longue durée. Après, je crois surtout qu'il y a, et c'est ça le drame terrible du Karabakh, il y a des stratégies de puissance, des stratégies impérialistes entre Poutine et Erdogan, qui sont très calculatrices, très rationnelles, très froides. Et là, pour le coup, je pense que les Arméniens on fait ce qu'il ne faut jamais faire, on fait une erreur d'évaluation monstrueuse. Les Arméniens ont pensé que les Russes les soutiendraient toujours, et là, les Russes ont dit non, non, on laisse faire. Ça, c'est une erreur d'évaluation tragique. Et je crois que l'Arménie, malheureusement, ce que je regrette infiniment, va le payer très, très cher. Après, du côté d'Erdogan, c'est une très bonne opération. Donc pourquoi ne pas la jouer? Les relations, pour le coup, entre l'Azerbaïdjan et la Turquie sont des relations beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Hein. La famille Aliyev était a priori beaucoup plus liée au Kremlin qu'à Erdogan. Là, il y a un concours de circonstances par ses intérêts économiques, hein, notamment pétroliers. Et puis l'Azerbaïdjan, c'est un pays un peu bizarre. Hein. C'est quand même un pays turcophone chiite. Voilà. On est là encore sur un cas de figure un petit peu particulier. Du côté d'Erdogan, c'est des stratégies impérialistes avec un jeu d'échecs, un billard plutôt, multibande. Et brusquement, on lui a offert, je pense, pour le coup, là, j'ai quand même envie d'être un petit peu critique. Je pense que par leur erreur de leur sous-évaluation du contexte, les Arméniens, ou certains nationalistes arméniens, ont offert à Erdogan l'occasion de marquer un coup fantastique. Cette guerre aurait quand même pu être évitée. Ça aurait été mieux pour tout le monde, notamment pour le peuple arménien du Karabakh. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez tragique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si on rentre dans un débat sur ces stratégies russo-turques, on va aller très loin, notamment du côté de la Syrie.
Sur les Balkans et la Turquie, je me permets une question. Est-ce que la Turquie essaye d'utiliser encore les communautés musulmanes à des fins de politique étrangère, etc.
Alors ça, c'est une très bonne question. La Turquie aujourd'hui, comment dire, la Turquie a fait un énorme retour dans les Balkans dans les années 2000. C'est l'époque, c'est la grande époque néo, ce qu'on appelait le néo-ottomanisme, qui était symbolisé par le ministre des Affaires étrangères et puis premier ministre Davutoğlu, qui aujourd'hui est sur la touche, qui a été complètement viré par Erdogan. Cette période néo-ottomane, c'était l'idée que la Turquie n'a que des bonnes relations avec tous ses voisins. Une stratégie multilatéraliste, donc, qui passait par une politique de soft power très importante. C'est le moment où les séries télévisées turques se répandent dans le monde entier, de la Russie jusqu'à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique et bien sûr les Balkans, et où la Turquie investit énormément. Grosso modo, vous avez dans les mythes historiques et territoriaux turcs, vous avez deux ressorts. Vous avez le mythe plutôt kémaliste, ethnique, donc des Turcs du pantouranisme. Donc chercher les origines ethniques des vrais Turcs en Asie centrale. Et donc dans les années 90, il y avait encore cette fascination pour retrouver le berceau des Turcs. Et puis vous avez l'autre projection qui est néo-ottomane, où là pour le coup, le caractère ethnique d'être un Turc ne compte plus du tout. Ce qui est important, c'est d'avoir fait partie de l'Empire ottoman, quelle que soit la langue que l'on parle. Voilà, il n'y a plus du tout d'idée d'origine de pureté ethnique. C'est cette idée-là que certains intellectuels proches d'Erdogan ont mis en avant dans les années 2000. C'est aussi le moment, il ne faut pas l'oublier, où en Turquie même, le régime d'Erdogan faisait des ouvertures très importantes, notamment aux Kurdes ou aux Arméniens, par rapport aux kémalistes qui étaient restés sur un modèle très fermé. Dans les années 2000, il y a eu une ouverture étonnante, où brusquement, ça devenait très chic à Istanbul de dire qu'on était d'origine caucasienne, balkanique, et qu'on avait une grand-mère kurde, et que sais-je. Choses qui ont totalement disparu dans la décennie suivante. Mais il y a eu cette période d'ouverture où Erdogan a essayé de trouver d'autres ressorts pour faire pièce au kémalisme et à la définition ethnique de la turcité. Durant cette période-là, la Turquie a beaucoup, beaucoup investi dans les Balkans. Auparavant, dans les années 90, la Turquie n'était guère présente que dans les pays musulmans, notamment en Bosnie-Herzégovine, qu'elle a beaucoup aidé durant la guerre. Au début des années 90, les premières ambassades de Bosnie, c'était souvent la Turquie qui mettait en place les cadres de représentation, etc. Dans les années 2000, la Turquie, elle investit partout. Elle investit pas seulement dans les pays musulmans, elle investit beaucoup en Serbie. Elle investit partout dans la région, elle investit énormément en Macédoine. Après, il y a un retrait relatif dans les années 2010 parce que la Turquie est très occupée ailleurs, notamment du côté syrien. Donc, elle n'a plus les moyens d'une politique très offensive dans les Balkans, tout simplement. Mais aujourd'hui encore, la Turquie reste très présente. Pour prendre le raconter de différentes manières, ce soft power des séries télévisées, il demeure toujours extrêmement présent. Vous allez n'importe où en Serbie, ce que les gens regardent, c'est des séries turques. Alors, moi, c'est rigolo. Moi, je vais dans des cafés. Vous savez, à l'époque, la grande époque nationaliste, il ne fallait surtout pas parler de café turc. On buvait du café serbe ou du café maison. Donc, moi, je demande un café turc. Et puis, si le serveur veut pas me servir, je lui dis, mais tu regardes quoi? Une série maison? Une série serbe? Non, tu regardes une série turque. Tu donnes un café turc. Bon, ça, ce soft power, il continue à fonctionner très, très bien. Autre exemple, dès le début, au tout début de la crise sanitaire du coronavirus, il y a eu, là encore, une erreur monstrueuse qui a été faite par l'Union européenne, le 15 mars ou le 16 mars, qui était de dire que les matériels de protection, les masques, les gants et tout ça, seraient réservés aux pays membres de l'Union. Ce qui était compris par les Balkaniques, démerdez-vous, vous n'aurez rien. Aussitôt, le 17 mars, il y a des avions militaires turcs qui ont atterri à Belgrade pour délivrer des masques et des combinaisons et des gants et tout ce que vous voulez. Là encore, c'est une opération de communication qui n'a pas coûté très cher à la Turquie, mais qui a eu un impact, vous imaginez bien, une opération très fructueuse. La Turquie aujourd'hui a beaucoup d'actifs dans la région. Elle a construit des autoroutes, elle possède des aéroports, par exemple. L'aéroport de Pristina, c'est un condominium turc et aéroport de Lyon. L'aéroport de Pristina au Kosovo. Il y a beaucoup d'autres intérêts économiques qui sont présents dans tous les pays de la région. On se focalise souvent, quand on parle des Balkans et d'un point de vue géopolitique, on se focalise souvent sur l'influence supposée de la Russie. Pour le coup, je pense que la Russie est très peu présente dans les Balkans. Les deux pays qui sont de plus en plus présents, c'est la Turquie et la Chine. La Chine qui rachète vraiment tout, mais la Turquie qui reste la grande puissance de référence, j'ai envie de dire, naturelle. Le pays qui est le plus proche de la Turquie, c'est certainement la Macédoine. Mais là, c'est vrai pour toutes les communautés, y compris les Macédoniens orthodoxes. On ne fait rien sans aller consulter l'AKP. Dans le cas de Sarajevo, bien sûr, lorsque Erdogan n'a pas pu tenir son meeting européen pour les élections turques de 2018, il a eu l'interdiction de tenir son meeting en Allemagne, parce qu'il l'a fait à Sarajevo. Il a rassemblé 50 000 personnes à Sarajevo, mais c'était les travailleurs turcs d'Allemagne qui sont arrivés en autobus à Sarajevo pour le meeting de l'AKP d'Erdogan, à Sarajevo. Cette influence, elle est évidente et elle va perdurer, je pense, de manière certaine. Elle va se redéfinir. Ce modèle néo-ottomaniste auquel personne n'a jamais vraiment cru, je pense que c'était largement une projection d'intellectuel, n'est plus à l'ordre du jour. Je pense aussi que le régime d'Erdogan ne va pas très bien. Je ne suis pas du tout certain qu'Erdogan conserve le pouvoir si longtemps que cela. En tout cas, je pense qu'il y a des crises majeures à venir en Turquie même qui rebattront les cartes. Mais l'influence de la Turquie dans les Balkans, elle, elle est là pour durer. Je reviens à cette question des liens, du départ, des volontaires qui sont partis se battre en Syrie. Il ne faut pas oublier que dans n'importe quelle ville des Balkans, je parle du monde, bien sûr, du monde d'avant, hein, d'avant le Covid, mais n'importe quelle ville des Balkans, vous avez un vol Pegasus, la low-cost turque, pour Istanbul ou Edirne ou Ankara. Et vous avez des norias d'autobus qui partent de la moindre petite ville de 50 000 habitants au Kosovo ou en Macédoine pour aller à Istanbul ou ailleurs en Turquie. Les liens, ils sont là, ils sont économiques, ils sont humains. À Istanbul, vous avez ce quartier sur la rive européenne, comme il s'appelle, pas Gazibaba, si Gazibaba, où il y a plus d'un million de personnes des Balkans qui sont arrivées au cours des 50 dernières années. Et vous avez dans cet immense quartier d'Istanbul, vous avez le coin des Monténégrins, le coin des Bosniaques, le coin des Kosovars, où chacun parle bien évidemment, et le turc est la langue de sa communauté d'origine. Il ne faut jamais oublier ces réalités-là. Et ces gens qui sont arrivés en Turquie il y a maintenant deux générations, ils conservent des liens bien sûr très étroits avec leur pays d'origine.
D'accord, merci.
Petite question en passant, donc c'est quand même des pays qui ont un état civil, tous ces pays des Balkans maintenant, avec les mises en place d'un état-nation moderne, les mariages se font sous le régime de l'état civil ou religieux ?
Les deux, les mariages se font…
D'accord, c'est les deux, quoi.
Voilà. Ouais. Comme chez nous, si on veut un mariage…
Oui, d'accord. Non, mais ce n'est pas des mariages que religieux, quoi.
Non, mais enfin, chez nous, en France aussi, chez les gens… religieux, c'est jamais tout à fait évident un mariage entre quelqu'un qui est musulman et quelqu'un qui est catholique ou catholique et juif. C'est jamais simple. Il y a toujours des questions compliquées d'arbitrage qui se posent. Est-ce qu'on va d'abord à la synagogue, à la mosquée, à l'église ou comment, dans quel ordre? C'est jamais simple. Donc on est à peu près dans ce cas, dans ce type de schéma-là dans les Balkans, sauf que ça renvoie à une structuration beaucoup plus profonde de la société. Et dernière chose, aujourd'hui, du fait notamment des guerres en Bosnie-Herzégovine, les différentes communautés se fréquentent beaucoup moins, ont beaucoup moins d'occasions de se rencontrer. Donc, par définition, les gens tombent amoureux les uns des autres.
Juste un complément. Dans les pays européens, le mariage civil est obligatoire avant le mariage religieux.
C'est le cas dans tout, vous avez raison. C'est le cas dans tous les pays des Balkans, sauf il y a une seule exception. Trace occidentale, en Grèce.
Je suis d'accord avec vous. Merci.
Il semblait que le CEDH avait retoqué un certain nombre de choses, mais c'est sur les héritages uniquement, hein, c'est ça?
Oui. Il y a toujours des procédures en cours, mais c'est…
Il y a toujours des choses, ouais. Oui. Alors, vous pouvez remplir la fiche d'évaluation que vous a mis Bastien, hein, en ligne. Voilà. Également, je crois que le lien sur le courrier des Balkans était mis dans ta bio. Hein,
oui, je peux le redonner ou tu peux…
Je vais le mettre, t'embête pas. Oui.
Voilà, alors, le courrier des Balkans, pour le présenter très rapidement, c'est donc un site internet d'information qui existe depuis 1998, ça va faire 23 ans. C'est le plus vieux site tour player francophone toujours existant. Qui vous informe donc tous les jours sur l'actualité politique, culturelle, sociale, économique et religieuse de tous les pays d'Europe du Sud-Est. La zone que l'on couvre va de la Slovénie jusqu'à la Turquie et de l'Albanie jusqu'à la Roumanie et à la Moldavie. Voilà, avec un réseau de correspondants dans tous les pays de la région, donc n'hésitez pas à aller le consulter.
Je peux poser une question?
Oui.
En vous écoutant, je me disais des Balkans au Caucase, c'est quand même un énorme morceau de personnes. C'est vraiment un ensemble où la laïcité est absente. Est-ce que cette vision des choses est correcte? Est-ce que c'est une situation qui vous paraît durable sur longue période?
Alors, c'est… Il y a beaucoup de questions dans votre question.
Cinq minutes.
Qu'est-ce que ça veut dire laïcité? Est-ce que l'Allemagne est un pays laïque? Est-ce que l'Italie est un pays laïque? En tout cas, pas de la même manière que la France.
Pas de la même manière, mais enfin quand même.
Oui, dans la plupart des langues européennes, on a du mal à traduire le terme de laïcité.
Je veux dire, par là, il y a une…
On parle plutôt de sécularisme.
Il y a une déconnexion entre religion et…
Si vous voulez, bien sûr, déconnexion. Je ne sais pas si bon, je ne vais pas rentrer dans un débat sur le modèle de la laïcité à la française, qui est cette neutralité de l'État qui protège, pour le coup, et garantit le libre exercice de tous les cultes. C'est quand même ça. La laïcité, ce n'est pas non plus quelque chose d'anti-religieux. Il faut jamais… Dans le cas des Balkans, ce qui change, des Balkans, de cette Europe intermédiaire, de cette Europe, je dirais, post-impériale, hein, donc qui part de l'empire des Habsbourg, qui était lui-même un empire très catholique, il ne faut jamais l'oublier, qui prend l'empire ottoman et qui va jusqu'à l'empire des Tsars. Donc un empire très catholique, un empire musulman et un empire orthodoxe. Dans cette grande banane d'une Europe post-impériale, boomerang, ce serait plutôt ça la forme, il y a deux choses. Il y a ce qui relève de la sphère de la loi, du public. Vous avez des lois qui garantissent l'indépendance de l'État par rapport aux phénomènes religieux, a priori, qui garantissent la liberté religieuse. C'est vrai en Russie, comme en Turquie, comme en Serbie, comme en Albanie. La liberté religieuse existe formellement partout. Et vous avez un tout autre phénomène qui ne relève pas de la loi, qui est que les identités qui sont constitutives de chacun de nous, on est tous des êtres constitués par plein d'identités, tous les êtres humains sur cette planète, mais l'identité nationale, qui est toujours ce qu'on appelle l'identité nationale, on pourrait le définir aussi, c'est complexe, mais enfin, qui est toujours un élément important de cette alchimie, cette identité nationale, elle est liée aux identités confessionnelles. Je veux dire, encore une fois, on est NAIT, orthodoxe, musulman, catholique ou juif, parce qu'on est issu d'une famille qui était de cette tradition ou d'une autre. Et c'est quelque chose qui est déterminant dans l'identité sociale de chacun. Le modèle de coexistence qui était le modèle des Balkans, mais également le modèle du Proche-Orient, c'est le modèle du bon voisinage. Le bon voisinage, c'est... Alors souvent, on le désigne par le mot turc de komşiluk. Komşia, c'est les voisins. Et des bons voisins, c'est des voisins qui reconnaissent leurs différences mutuelles. Par exemple, moi, je suis catholique et je vais aller fêter le début ou la fin du ramadan ou la fête du sacrifice, le Bayram Kurban, à mes voisins musulmans. Donc, en faisant ça, je montre que je suis un bon voisin. J'attends une réciproque, puisqu'il faut que mes voisins musulmans viennent me fêter des joyeuses Pâques et un bon Noël. C'est aussi une manière d'inscrire la différence de chacun. Il y a une histoire pour montrer à quel point c'est quelque chose de prégnant. Là, il y a une histoire qui a éclaté à Pristina il y a quelques semaines. Il n'y a quasiment plus de Serbes à Pristina du fait de ce qui s'est passé après la guerre. Mais il y a des baraquements qui doivent être détruits pour faire la place à des parkings. Et là, il y a des vieux qui sont serbes et albanais qui vivent ensemble, dans le Pristina de 2021. Et la mairie de Pristina ne sait pas comment reloger ces gens. Et donc, il y a, notamment les Serbes, ils ont tous plus de 80 ans, et ils veulent bien être relogés ailleurs, mais à condition de rester avec leurs voisins albanais. Ils disent, parce qu'on fait toutes nos fêtes religieuses ensemble. Nous, on ne peut pas fêter Noël sans nos voisins musulmans. Et eux, les pauvres voisins musulmans, ils ne peuvent pas imaginer de fêter la fin du ramadan sans nous. Parce que c'est là où on actualise notre différence et en même temps ce que l'on va partager, qui va être des conditions de vie ou des travaux communs dans le cadre du monde rural. Ce komşiluk, c'est la manière dont les sociétés ont fonctionné dans les Balkans, dans le Caucase, au Proche-Orient. Durant des siècles, les voisins arméniens et azéris, ils s'entendaient bien et ils se donnaient des services à Stepanakert ou à Choucha, bien évidemment, comme à Beyrouth, comme à Istanbul ou à Sarajevo ou dans n'importe quel village de Bosnie. Le gros problème, alors ça c'est Xavier Bougarel qui a un très très bon connaisseur de l'islam balkanique et de la Bosnie, qui l'a un petit peu théorisé de manière très très pertinente. Ce komşiluk, c'est à la fois ce qui permet d'être ensemble, en même temps de connaître la différence de chacun. Et le komşiluk fonctionne bien tant que l'État central dit « il faut être bon voisin ». Si l'État central dit « non, il ne faut pas être bon voisin et le voisin est un danger potentiel », le komşiluk peut se transformer en machine à tuer parce que chacun sait qui est qui. C'est assez juste. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Empire ottoman, sur la longue durée, avec des variantes, mais sur la longue durée, a dit « soyez bons voisins, vivez ensemble », parce que l'Empire ottoman avait besoin des juifs et des chrétiens pour son commerce, pour son économie, il avait besoin, donc il fallait que tout le monde reste dans le cadre de l'Empire. Donc l'Empire ottoman disait « vivez en bons voisins ». Tito, d'un certain point de vue, a repris cette tradition en disant « viser en bon voisin » dans le cadre de la fraternité et de l'unité. Et puis, il y a d'autres modèles politiques, ces modèles de l'État-nation, des modèles plus modernes par certains aspects, qui sont venus casser cette cohabitation. Alors maintenant, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on peut sortir de tout cela ? On va pas, cet héritage historique, on va pas s'en débarrasser. L'héritage historique, il est différent en Arménie, en Serbie, en France. Il n'y a pas un modèle universel qui va s'imposer. Le croire est une illusion, tout le monde le sait très bien. Je pense que aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus. Le problème des Balkans, c'est d'une part ce mauvais développement structurel qui ne s'arrange pas et la faillite des perspectives européennes, qui était une perspective qui mobilisait largement les sociétés des Balkans. Alors, avec tout ce qu'on veut, des illusions, hein, c'était l'idée de rejoindre le club des riches, mais c'était aussi l'idée, parce que sur le fond, projet européen, c'est quoi? Il ne faut pas se tartiner sur les valeurs ou ce genre de choses. Ça ne veut rien dire. Fondamentalement, l'Europe, c'est deux choses. C'est un pays où c'est des pays où on n'a pas à payer le juge pour être jugé de manière à peu près impartiale, et il y a des systèmes de protection sociale. C'est ça, l'Europe. Le reste, les valeurs, tout ça, c'est de la crème sur le gâteau. Fondamentalement, c'est ça qui est connu comme étant l'identité européenne. Et c'est ça auquel les gens des Balkans, d'ailleurs, aspirent. C'est pouvoir être jugé sans devoir donner un bakchich au juge et, s'ils sont au chômage ou s'ils tombent malades, avoir un système de protection sociale. C'est ça, fondamentalement, l'Europe. C'est rien d'autre. Si ce modèle-là pouvait fonctionner, les identités n'en disparaîtraient pas pour autant, bien évidemment. Mais ces identités seraient une richesse, pas la planche à laquelle on va s'accrocher dans un naufrage généralisé.